Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de probabilité, parce que je sais que vous adorez les probabilités. Et un peu plus précisément, on va parler pas seulement de probabilité en général, ni du point de vue mathématique, mais un petit peu entre mathématiques et psychologie. Si je vous parle de ça, c'est parce que je vais aller la semaine prochaine à Strasbourg pour faire une conférence sur le sujet avec d'autres intervenants. Et donc, du coup, j'ai préparé, je me suis un petit peu plongé dans les paradoxes probabilistes. Et du coup, j'ai pu rénover, si on veut, un thème qui m'est cher, comme vous savez, hein, celui de la perception du hasard et des probabilités subjectives. Et donc j'ai pu l'illustrer maintenant avec, vous allez voir, des exemples, des paradoxes un peu originaux par rapport à ce dont on parle habituellement, en tout cas dont moi je parle habituellement. Voilà. Alors l'idée générale, peut-être, de ce que je vais vous raconter, c'est de répondre à cette fameuse question, est-ce que finalement alors on est bon probabiliste ou mauvais probabiliste, nous autres les humains? Parce que... Eh bien, si vous écoutez un peu ce qu'on dit autour de vous, ce que disent les psychologues, par exemple, qui travaillent sur la question, eh bien, vous avez des échos assez divergents. Peut-être connaissez-vous, vous souvenez-vous de tout un grand champ de recherche qui a été initié par Kahneman et Tversky. Kahneman en a beaucoup parlé, parce que c'était un psychologue et économiste et qu'il a eu le prix Nobel, dit Nobel, d'économie pour ses travaux, et avec son collègue Tversky, ils avaient travaillé pendant des années, des décennies même, sur ce grand projet qui s'appelait biais et heuristique. Alors si vous avez oublié, un biais c'est une erreur systématique qu'on fait, par exemple dans les raisonnements, il y a des raisonnements qui sont faux, mais intuitivement, qui nous appellent intuitivement, ce qui fait qu'on les utilise beaucoup. Voilà, ça fait des biais. Et puis les heuristiques, ce sont en quelque sorte des raccourcis logiques qui nous permettent d'arriver très vite à une conclusion qui est souvent vraie, mais qui parfois donne des résultats complètement faux. Voilà, ce grand champ de recherche donc, qui a commencé, ou qui était particulièrement développé, en tout cas dans les années 70 et 80, essayait donc d'identifier les biais dans le raisonnement et les heuristiques que nous autres humains utilisons spontanément. Dans cette approche, donc, on part de l'idée que l'humain fait des erreurs et donc, quand il s'agit de probabilité, est un mauvais probabiliste, pour tout un tas de raisons. Et effectivement, on a des preuves qui s'accumulent, des preuves expérimentales qui se sont accumulées au fil des années pour dire qu'effectivement, nous sommes de très mauvais probabilistes. Et on va voir ça, non pas sur les exemples les plus classiques de Kahneman et Tversky, qui sont... peut-être pour ceux qui ont entendu parler de ça, par exemple l'erreur de conjonction qui conduit à penser que A et B, pour le dire de manière un peu mathématique, est plus probable que A tout seul, alors que mathématiquement c'est tout à fait impossible. Et puis d'autres exemples qui reviennent régulièrement, qui sont devenus très classiques. Là on va changer un petit peu et je vais illustrer nos difficultés à comprendre les probabilités à partir de 4 paradoxes, peut-être. Peut-être que vous trouverez d'ailleurs pas que ce sont des paradoxes, parce que tout le monde ne tombe pas dedans, mais beaucoup de gens, en tout cas, considèrent que les résultats sont tout à fait paradoxaux. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est le problème très très classique du duc de Toscane. C'est une histoire qui remonte au XVIIIe siècle, si je me souviens bien, et qui est une question toute simple. Voilà la question, et ensuite je vous donnerai la réponse souvent donnée par les gens, les participants à qui on demande, y compris par des professeurs du secondaire. On avait fait passer le test à des professeurs de mathématiques et de sciences de collège et lycée, et on avait eu des résultats comparables à ce qu'on trouve dans la littérature, c'est-à-dire une majorité de gens qui répondent la même chose. Peut-être que vous allez répondre pareil. Alors voilà le problème, il est très simple. Supposez que j'ai 2 dés, et que je les lance ensemble, en faisant la somme, et j'obtiens un score. Le plus petit score possible, évidemment, c'est 2, et le plus grand, c'est 12. Et la question, c'est, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir 11, ou est-ce qu'on a plus de chances d'avoir 12, ou est-ce que 11 et 12 sont aussi probables l'un et l'autre? Voilà, question toute simple, a priori. Si vous avez étudié suffisamment les probabilités, probablement vous avez déjà rencontré ce problème, parce que c'est un classique. Sinon, peut-être que vous avez une intuition à ce propos. Alors moi, j'ai posé la question à des enfants qui m'ont donné des réponses, des enfants de CE2 et CM1 lors d'une expérience, qui m'ont donné des réponses très variées. Certains m'expliquent que 12 est plus probable parce qu'ils aiment bien avoir 12 quand ils jouent au dé. D'autres me disent que 11 est plus probable, et quand je leur demande de justifier, ils me disaient, par exemple, enfin, l'un des enfants m'a dit « Ah ben 11, c'est quand même plus probable parce que c'est quand même rare d'avoir 12 quand on joue au dé. » Voilà un argument très fort, en tout cas tout à fait réaliste. Et puis beaucoup d'autres me disent que c'est aussi probable l'un que l'autre. Et quand j'ai demandé à des professeurs donc de collège et lycée, de sciences et de mathématiques, la réponse majoritaire que j'ai eue était l'égalité des probabilités. C'est-à-dire les deux, 11 et 12, sont aussi probables l'un que l'autre. Alors ça paraît être un peu du bon sens, et les arguments que donnent les participants quand on leur demande de justifier pourquoi vous dites que c'est aussi probable, c'est bah, tout simplement bah, c'est le hasard. Donc si c'est vraiment le hasard, il n'y a pas plus de chances d'avoir une valeur ou une autre. Voilà. Eh bien, ce raisonnement est faux, et le résultat est faux, et la réalité, c'est qu'il y a deux fois plus de chances d'avoir 11 que 12 quand on joue au dé. Ah, voilà qui est tout à fait étonnant. Et d'où ça vient, et comment on peut comprendre l'erreur, cette erreur-là ? Si vous l'avez faite, elle n'est pas très difficile à comprendre, et la bonne solution n'est pas très difficile à comprendre non plus. En général, quand on la donne, les gens disent « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, donc je vous la livre maintenant ». Voilà ce qui se passe. Vous imaginez par exemple les deux dés avec des couleurs, peut-être ça peut aider. Donc vous avez un dé bleu et un dé rouge. Comment faire 12 ? Il y a une seule solution. Le dé bleu doit faire 6 et le dé rouge doit faire 6. Donc il y a une seule situation dans laquelle on aura 12. Tandis que pour faire 11, il y a deux solutions. Soit le dé bleu fait 6 et le rouge fait 5, soit c'est l'inverse, c'est le rouge qui fait 6 et le bleu qui fait 5. Ce qui fait donc deux situations dans lesquelles on aura 11 et une seule situation dans laquelle on aura un score de 12. Et donc vous voyez que contrairement à ce que nous susurre parfois l'intuition, eh bien non, il n'y a pas la même probabilité d'avoir 11 et 12, 11 est deux fois plus probable. Alors ce type d'erreur entre dans ce qu'on appelle, dans l'optique des biais heuristiques dont j'ai parlé tout à l'heure, le biais d'équiprobabilité. C'est un biais qui consiste à supposer, à chaque fois qu'il y a une histoire de hasard derrière, que tout est équiprobable. Un exemple où les gens se trompent un peu moins, mais ça arrive quand même, c'est de demander quelle est la probabilité que dimanche, la semaine prochaine, sera le jour le plus chaud de la semaine. Et certaines personnes répondent, bah, c'est une chance sur deux, puisqu'il y a deux solutions, soit c'est le plus chaud, soit c'est pas le plus chaud. Voilà. Mais si on pose les questions autrement, en disant, parmi les 7 jours de la semaine, on va noter le plus chaud, quelle est la probabilité que ce soit dimanche ? Là, les gens ont tendance à répondre 1/7. Parce qu'évidemment, là, on voit 7 possibilités, soit c'est lundi le plus chaud, soit c'est mardi, etc. Donc vous voyez que ce biais d'équiprobabilité, il conduit à des réponses selon la manière dont on pose la question différente et parfois contradictoire. Ici, c'est contradictoire. En tout cas, peut-être on reparlera tout à l'heure des causes, des explications de ce biais d'équiprobabilité, mais une chose assez amusante, c'est que le biais d'équiprobabilité augmente avec l'éducation en proba. C'est-à-dire que ceux qui se trompent le plus ne sont pas ceux qui n'ont jamais fait de proba, ce sont ceux qui ont fait un petit peu de probabilité. Quand on est très fort et qu'on est probabiliste, en général, on ne se trompe pas. Mais ceux qui se trompent le plus, c'est ceux qui ont étudié 2 ans, 3 ans les probabilités, des notions. Et donc, en réalité, le biais d'équiprobabilité a été parfois présenté, notamment par une collègue à moi, Kinga Morsani, de l'université de Belfast, comme un effet secondaire de l'éducation en probabilité. Voilà pour ce premier exemple, donc, le duc de Toscane. Un exemple assez simple. Vous allez voir qu'il y en a des un peu plus coriaces, peut-être. Le deuxième exemple, maintenant, dont je vais vous parler, c'est le problème de savoir si on peut gagner au jeu de hasard. Alors, on va imaginer un jeu un peu simplifié, parce que dans les vrais casinos, les roulettes sont un peu truquées, c'est des choses un peu complexes, mais on va imaginer quelque chose de très simple. Voilà, on va imaginer simplement un pile ou face, vous pariez ce que vous voulez, et puis, par exemple, vous pariez 10 euros, mettons, vous pariez 10 euros, et puis on joue à pile ou face, donc vous avez une chance sur deux de gagner à ce coup-là. Si vous gagnez, vous regagnez les 10 euros que vous avez pariés plus 10 euros, donc vous avez gagné 10 euros au total. Et si vous perdez, eh bien vous perdez, par exemple, les 10 euros que vous avez misés plus 1 euro de frais, pour dire que quand même le casino, en moyenne, va gagner beaucoup d'argent. Question toute simple que j'ai aussi posée à des professeurs de sciences et de mathématiques de collège et lycée. Est-ce qu'il existe une méthode qui nous garantisse, avec une probabilité très élevée, par exemple, on va dire 99%, qui nous garantit de gagner à ce jeu-là, si on a le droit de jouer plusieurs fois, évidemment. En une fois, c'est, de toute façon, c'est sûr, la probabilité de gagner, c'est 1,5. Mais est-ce qu'il y a une méthode qui me garantit que je vais gagner 10 euros ? Il semble que non, hein. C'est en tout cas ce que pensent la plupart des gens. Et ça vient très probablement d'un heuristique, c'est-à-dire une idée qui est généralement vraie et qu'on nous a répétée pendant tous nos cours de probabilité, qui est on ne gagne pas contre le hasard. Le hasard, c'est imprévisible et donc il n'existe aucun moyen de gagner contre le hasard. Et bien pourtant, cette méthode existe. Il existe une méthode que je vais vous décrire tout de suite et vous pourrez vous précipiter au casino. Mon ami Jean-Paul Delahaye, que vous connaissez sûrement, a testé la méthode lui-même et il a gagné un tout petit peu d'argent au casino avec cette méthode. Alors je vous explique la méthode. Supposons qu'on veuille gagner 10 euros, par exemple, avec une très forte probabilité. On ne peut jamais être tout à fait sûr de gagner, mais on peut être sûr à 90%, 99%, même 99,9% pourvu qu'on ait suffisamment d'argent. Voilà le principe. Vous allez jouer à ce jeu au casino et vous commencez par miser 10 euros. Comme ça, si vous gagnez, ben vous avez gagné 10 euros, c'est ce que vous vouliez. Là, il y a déjà une chance sur deux que ça se produise. Si ça ne se produit pas, avec les règles que j'ai énoncées tout à l'heure, vous avez perdu, à la fin de la première partie, vous avez perdu les 10 euros plus 1 euro de frais. Donc vous avez perdu 11 euros. Ce qui veut dire que pour regagner tout ce que vous avez, pour regagner tout ce que vous avez perdu plus 10 euros, et donc être au final gagnant de 10 euros, il vous faut gagner maintenant 21 euros. Donc vous allez miser 21 euros, et vous avez à nouveau une chance sur deux de gagner. Si vous gagnez, eh ben c'est formidable, vous avez au total gagné 10 euros, et si vous perdez, vous avez perdu 22 euros supplémentaires, ce qui vous fait arriver à 33 euros de déficit. Vous avez compris le principe, la fois d'après, il faudra regagner les 33 euros plus 10, donc 43, on va donc miser 43 euros, etc. Et avec cette méthode, vous comprenez bien, quand on fait un jeu de pile ou face réitéré, plus on joue, plus on a de chances de finir par gagner. La probabilité de perdre une fois, c'est 1,5, de perdre deux fois de suite, c'est 1/4, trois fois, c'est 1/8, puis 1/16, puis 1/32, puis 1/64, etc. Donc très rapidement, et on divise à chaque fois par deux, la probabilité d'avoir perdu sans arrêt depuis le début devient très très faible. Et donc très rapidement, on va arriver à une probabilité de 99,9% par exemple de gagner, tout simplement parce que la probabilité d'avoir perdu sans arrêt est inférieure à 0,1%. Et avec l'algorithme que je vous ai décrit juste avant, du moment que vous gagnez une fois, vous avez gagné au total 10 euros. Et donc vous pouvez repartir avec vos 10 euros, vous avez gagné. Et il y avait 99,9% de chances que cela vous arrive. Est-ce que ça n'est pas en contradiction avec tous les conseils qu'on nous donne en nous disant qu'il ne faut pas jouer au jeu de hasard parce qu'on est sûr de perdre de l'argent, on ne peut pas battre le hasard, etc. Et comment les casinos font pour survivre s'il existe une méthode qui nous permet de gagner presque sûrement ? Voilà toutes les questions qui nous hantent. En réalité, bien sûr, vous l'avez compris, il n'y a pas de contradiction entre le fait de gagner presque sûrement et le fait de perdre de l'argent en moyenne, parce que c'est bien en moyenne qui nous intéresse ici. En réalité, quand je vous dis on a 99,9% de chances de gagner, c'est vrai. Seulement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous gagnez avec ma méthode, vous gagnez forcément 10 euros, jamais plus. Par contre, vous l'avez vu quand on a fait le calcul, si vous perdez au bout de une fois, ben vous aurez perdu 11 euros si vous vous arrêtez ici. Si vous perdez au bout de deux fois, vous aurez perdu 33 euros, et puis ça augmente comme ça, évidemment, très rapidement. Ce qui veut dire qu'en réalité, la probabilité de perdre complètement, c'est-à-dire de ne plus pouvoir jouer simplement parce qu'on n'a plus d'argent, est très faible. Mais quand elle se produit, eh bien, vous perdez énormément d'argent. Donc vous avez une forte chance de gagner un tout petit peu et une très faible chance de perdre énormément. Et au final, en moyenne, vous perdez quand même de l'argent. Et évidemment, gagner 10 euros, c'est pas ça qui va changer votre vie. Par contre, être complètement ruiné, c'est peut-être ça qui va changer votre vie. Donc, je confirme, il ne faut pas jouer au jeu de hasard. Et il n'y a pas de contradiction entre ça et le fait qu'il existe une méthode donc, pour gagner presque sûrement, si on veut dire comme ça, pour gagner avec une probabilité aussi élevée qu'on veut, en tout cas, au jeu de hasard. Mais on ne peut gagner qu'une toute petite somme. Et là encore, voilà, on a une sorte de... Je ne sais pas, on a utilisé une heuristique, en tout cas il y a un biais, qui fait qu'on imagine que cette méthode est impossible. Et quand Jean-Paul Delahaye m'en a parlé d'ailleurs, j'étais au début très sceptique, et je me disais quand même c'est bizarre qu'il existe une méthode qui permette de gagner presque à coup sûr. Et bien pourtant, si, ça fonctionne, mais avec les réserves dont on a parlé juste avant. Donc vous voyez que là aussi, nos intuitions sont largement limitées. Troisième exemple dont je vais vous parler maintenant, une sorte de paradoxe encore probabiliste, le problème des deux enveloppes. C'est un problème assez classique qui a fait couler beaucoup d'encre, et je vais vous proposer une solution tout à l'heure, mais en réalité ce problème est beaucoup plus coriace que les deux précédents, puisque sur ce problème-là, les experts eux-mêmes ne se sont pas mis d'accord. Donc tous ne disent pas la même chose, il y a des quantités industrielles d'articles qui sortent depuis 30 ans sur cette question pour savoir comment la résoudre, et en réalité, tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin je vais vous donner au moins des pistes de réflexion qui pourront vous aider un petit peu. Alors voilà le problème des deux enveloppes. Vous avez deux enveloppes et on vous donne l'information suivante. Dans chaque enveloppe, il y a une somme d'argent. Ça peut être 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros, n'importe. On peut dire que c'est un chèque, par exemple. Ça peut aller jusqu'à l'infini, a priori. Vous avez le droit de choisir une des deux enveloppes. Donc voilà, prenez une des deux enveloppes. Ok, celle-ci, d'accord. On prend celle-là, vous ouvrez l'enveloppe. Et dedans, vous trouvez 20 euros. Et alors oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, dans chacune des deux enveloppes, il y a de l'argent, et dans l'une des deux enveloppes, il y a deux fois plus d'argent que l'autre. Donc si vous avez tiré une enveloppe avec 20 euros dedans, ça veut dire que l'autre enveloppe soit contient 10 euros, si vous avez tiré celle qui a la plus grande valeur, soit l'autre enveloppe contient 40 euros, si vous avez tiré l'enveloppe qui a le moins d'argent. La question c'est, est-ce qu'il faut... Maintenant, changez d'enveloppe. Maintenant que vous avez regardé, vous avez vu qu'il y avait 20 euros, eh bien, on vous dit, bah, soit vous prenez les 20 euros, soit vous prenez l'autre enveloppe. Le réflexe de celui qui a fait des probabilités, c'est de calculer, bien sûr, l'espérance, c'est-à-dire la moyenne qu'on peut imaginer gagner si on change d'enveloppe, par exemple. Or, on a dit, il y a deux solutions, a priori, avec la même probabilité. Soit l'autre enveloppe contient 10 euros, soit l'autre enveloppe contient 40 euros. Si vous faites la moyenne des deux, ça vous donne une moyenne de 25 euros. C'est-à-dire que dans l'autre enveloppe, il y aura en moyenne, d'après votre estimation, 25 euros. Plus donc que celle que vous venez de tirer. Alors ce qui est tout à fait paradoxal dans cette histoire, c'est que un calcul intuitif comme ça nous dit que quelle que soit l'enveloppe qu'on tire, on aura plus d'argent dans l'autre. Mais évidemment, si vous changez le problème en disant que, par exemple, vous avez deux personnes, chacun prend une des deux enveloppes et chacun a le droit de changer, chacune des deux personnes peut faire le raisonnement qu'on vient de faire, et ça conduit les deux personnes à échanger les enveloppes avec la certitude, ou du moins l'espérance, de gagner plus. Or, bien évidemment, pour l'un des deux, c'est faux à chaque fois. C'est tout à fait étonnant. Alors à ça, je vous ai dit, c'est vraiment un paradoxe, là, pour le coup, qui intéresse les spécialistes. Et plusieurs solutions ont été trouvées. Mais disons, une piste, en tout cas, de réflexion, vient du fait qu'il y a un élément qu'on ne prend pas en compte dans notre réflexion, très probablement, c'est le fait qu'on imagine qu'il y a une somme dans l'enveloppe qui est aléatoire. Ça peut être n'importe quoi, la somme. Ça peut être 100, 10 000, etc. Et on suppose, sans le dire, qu'en réalité, toutes les sommes sont équiprobables. C'est-à-dire, par exemple, que 100 euros ou 10 euros... ont la même probabilité. Or ça, c'est mathématiquement impossible. Dit mathématiquement, il n'existe pas de loi uniforme sur l'ensemble des entiers, par exemple, positifs. Pourquoi ? Parce que si vous imaginez une certaine probabilité pour 10 euros, mettons qu'il y a une chance sur 1000 pour qu'il y ait 10 euros, par exemple, dans une des enveloppes. Et si toutes les probabilités sont égales, donc s'il y a la même probabilité d'avoir 10, 20, 40, 100, 1000, 10 000, etc., eh bien, au final, la probabilité d'avoir n'importe quel nombre, ça va vous faire 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 une infinité de fois, et donc ça va dépasser 1, c'est impossible. Autrement dit, c'est impossible de choisir un nombre positif au hasard en garantissant que n'importe quel nombre a la même probabilité d'apparaître que n'importe quel autre. Ce qui veut dire que la vraie probabilité, si on faisait cette expérience, serait nécessairement différente de l'uniformité, et ça veut dire qu'en réalité, au bout d'un moment, les plus grandes valeurs sont moins probables. On peut imaginer, par exemple, qu'à partir de 1000 euros, on a très peu de chances d'avoir des enveloppes qui contiennent plus, par exemple, admettons. Et dans ce cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le raisonnement qu'on a fait précédemment ne sera pas toujours valable. Et en particulier, si je tire 1000 euros, par exemple, eh bien, je saurai que c'est forcément l'enveloppe qui contient le plus, puisqu'on ne peut pas dépasser 1000 euros. Ou bien, si on parle de manière un peu plus relative, sans faire du tout ou rien, on va dire, si j'ai trouvé 1000 euros, alors il est plus probable d'avoir 500 euros dans l'autre que 2000, tout simplement parce que 2000, c'est une valeur qui apparaît beaucoup moins souvent dans l'absolu que 500. Et il y a forcément une limite, parce que ça n'est pas possible de choisir un nombre positif au hasard, uniformément, c'est-à-dire avec la même probabilité pour toutes les valeurs. Donc voilà, là j'ai seulement un début de piste de raisonnement. Tous les experts ne sont pas d'accord pour dire que c'est la bonne solution. Moi, c'est celle qui me... la piste de réflexion, disons, qui me parle le plus. Et j'ai l'impression qu'ici, en fait, on fait une hypothèse implicitement sur la répartition des valeurs. Quand on dit simplement, quand on dit si j'ai choisi 20, eh bien, il y a une chance sur 2 que dans l'autre enveloppe il y ait 10 et une chance sur 2 que dans l'autre enveloppe il y ait 40, eh bien, peut-être on se trompe. En réalité, 40 est moins probable que 10. Et si on utilisait une vraie distribution, eh bien là, on ne retrouverait pas cet effet qu'on a trouvé tout à l'heure, qui consiste à penser que systématiquement, c'est mieux de changer d'enveloppe que de conserver l'enveloppe qu'on a initialement choisie. Voilà, voilà. Donc, trois exemples. Je m'arrêtais là, j'en avais un autre, mais je vois que l'heure tourne un petit peu. Donc, peut-être la prochaine fois, je vous dirai exactement le contraire de ce que je vous ai dit aujourd'hui, à savoir qu'en réalité, nous sommes de bons probabilistes, et c'est aussi ce que disent les psychologues. Et bien entendu, il faudra aussi qu'on discute alors de réconcilier ces deux approches a priori contradictoires. Donc simplement pour vous faire saliver sur la suite et intéresser ceux qui s'intéressent à ces questions, en tout cas, là je vais vous donner juste trois exemples pour illustrer le fait qu'on est assez facilement dérouté, perdu, qu'on a assez facilement des intuitions fausses pour ce qui concerne des petits problèmes probabilistes. Pas si compliqué que ça, hein. Vous voyez, bon, le dernier est un peu compliqué, mais la question du duc de Toscane, est-ce qu'on a plus de chances d'avoir 11 ou 12 en lançant 2 dés, est quand même une question relativement simple. Et bien même sur des questions simples comme ça, on se trompe complètement. Et pourtant, il y a tout un champ de recherche dont je vous ai déjà un petit peu parlé il y a quelques temps, mais je serai plus précis cette fois-ci. Tout un champ de recherche, donc, qui est en train de découvrir, de démontrer, d'argumenter en tout cas cette idée selon laquelle le cerveau humain, c'est une machine probabiliste à faire des calculs probabilistes et que du point de vue des probabilités intuitives, en fait, on est plutôt très bon. Et donc, évidemment, il y a un hiatus, et c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu faire cette émission là aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé des réponses depuis, mais que vous n'aurez que la prochaine fois. J'ai trouvé des réponses à cette question. Comment se fait-il qu'on puisse être de bons probabilistes, y compris en étant tout petit, hein, puisqu'on trouve des compétences probabilistes. Comme il y a des compétences numériques, il y a aussi des compétences probabilistes chez les tout petits enfants. Comment se fait-il qu'on puisse être de bons probabilistes intuitifs et en même temps qu'on soit tellement incapable de comprendre des problèmes tout simples en probabilité, qu'on se fasse trimballer comme ça par le moindre paradoxe, le problème des deux enveloppes, les ducs de Toscane, et je ne vous raconte pas les dizaines de paradoxes du même type qu'il y a, sans compter les plus classiques, comme le paradoxe d'anniversaire, par exemple. Voilà, donc la prochaine fois, je vous parlerai un petit peu de cet autre champ de la psychologie qui montre que nous sommes quand même, malgré tout, et de manière intuitive, de bons probabilistes. Et puis, on essaiera aussi de répondre donc à cette fameuse question, comment peut-on être de bons probabilistes et en même temps se tromper aussi souvent en probabilité. Voilà, je vous laisse donc avec toutes ces réflexions jusqu'à la prochaine fois. Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.
Stay home all day long, do that till I can't go on, 'cause we're probably